La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
À Paris, j'ai rendez-vous avec Marie, l'une des rares Françaises à avoir réussi à s'enfuir de Syrie. Elle surmonte sa crainte d'éventuelles représailles des djihadistes pour me confier son témoignage.
J'ai 30 ans. Je suis française, originaire d'une ancienne colonie française. Je suis restée 6 mois à Raqqa. C'était en 2015.
La voix de Marie dans La Marche du Monde. Marie est l'une des revenantes du film de Marion Stalens. Marie, mais aussi Laura, sont parties rejoindre la Syrie et elles en sont revenues physiquement et psychologiquement. Elles ont fait le choix de se confier à notre invitée Marion Stalens, une femme cinéaste qui pourrait être une femme de radio tant elle sait les écouter. Et cette écoute attentive permet justement de retracer le parcours biographique de ces femmes françaises ou belges qui sont parties ou qui ont failli partir en Syrie. Mais comment ont-elles été recrutées? Quelles ont été leurs motivations? Et au fond, peut-on parler d'un djihad au féminin? Bonjour Marion Stalens.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de partager votre documentaire avec les auditeurs et les auditrices de RFI, puisque dans cette émission, nous allons pouvoir entendre certaines voix de votre film que vous avez intitulé « Les Revenantes », ce qui correspond à un certain nombre de femmes parties et revenues de Syrie, mais pas à toutes les femmes qui ont rejoint l'État islamique en Syrie ces dernières années. Alors pourquoi justement avoir fait ce choix?
Alors le film s'appelle pas Les Revenantes, mais Revenantes justement, parce que je ne raconte pas toutes les revenantes. J'ai beaucoup hésité avant d'accepter de faire ce film qui m'a été proposé par ma productrice Fabienne Servan-Schreiber, parce que je me demandais si rajouter encore de la peur à la peur n'était pas jouer le jeu des terroristes. J'avais envie d'apporter d'abord une connaissance intime de cette question en faisant des vraies rencontres et ensuite de donner de l'espoir en montrant que certaines personnes qui ont adhéré à ça ont pu en sortir. C'est vraiment la chose à laquelle je me suis attachée, redonner de l'espoir.
Alors, revenante, c'est un terme polysémique. On pense bien sûr au verbe revenir, mais c'est aussi l'évocation d'un monde parallèle dans lequel errent des fantômes.
Oui, tout à fait. C'est ce terme-là, il est tout à fait polysémique. Et on a ces images de femmes en djilbab qui marchent dans les rues, vêtues de noir et qui sont comme des fantômes d'elles-mêmes. Et le film, c'est toute l'histoire qui mène de ces femmes revenantes au fait qu'un jour, elles reviennent pour de bon. Elles ne sont plus des revenantes, elles sont à nouveau des femmes parmi nous et elles partagent leur expérience.
Nous recevons Marion Stalens dans La Marche du Monde pour son documentaire Revenante. Et avec elle, nous écoutons les voix des femmes qui lui ont fait confiance et qui ont accepté d'être filmées.
Je m'appelle Laura Passoni, j'ai 31 ans. Je suis partie en Syrie en juin 2014 et je suis revenue en mars 2015. Je suis restée 9 mois. J'habite en Belgique, dans la région de Charleroi. Mes grands-parents sont d'origine italienne. Ils ont délaissé leur famille pour pouvoir venir ici travailler dans les mines et après dans les usines. Et puis, il y a eu un chômage massif. Mes parents étaient des personnes moins que rien à cette époque-là et on leur donnait des injures aussi. Je me rappelle que des petits garçons, des petites filles ne voulaient pas jouer avec moi. On me disait que j'étais une sale ritale, que je devais aller manger mes spaghettis. Dans mon quartier, au fait, il y avait une famille musulmane. Cette famille-là, ben, s'entendait bien avec ma famille aussi. Et il y avait une fille de mon âge à ce moment-là, de 2 ans plus vieille que moi. Et on est devenus amis très très vite. On trouvait que c'était un bon mélange entre moi et elle, parce que c'était une Italienne avec une Marocaine. Et toutes les deux, ben, on se comprenait, parce qu'on avait vécu la même chose. Et c'est pour ça qu'à l'âge bon, de 15-16 ans, j'ai voulu me convertir. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré le papa de mon premier garçon. Lui, il était musulman. Et moi, je suis convertie, mais bon, pas encore très très bien dans la religion. Je ne mangeais pas encore, par exemple, halal à ce moment-là. Il m'a dit, mais non, tu dois manger halal. Donc lui aussi m'a un peu appris encore plus la religion musulmane. Mais le problème, lui, il était très très jaloux. Donc j'ai abandonné mes études pour lui. Je suis tombée enceinte, hors mariage, et la réaction de sa mère, bien sûr, était négative. Mon père, au début, pareil. Et de là, il m'a trompée avec une autre. Et petit à petit, elle a plus voulu voir notre fils, quoi. J'avais plus rien, en fait. J'avais pas de diplôme adéquat, j'avais pas de travail, j'étais au chômage, et j'avais un petit garçon. Donc je refais un profil Facebook qui est plus religieux, qui est Laura la convertie. Et là, j'ai plein de demandes. Et je parle avec un, avec l'autre. Et malheureusement, je tombe sur la personne mal intentionnée, mon recruteur qui m'ajoute et qui, avec qui je parle longuement et de plusieurs mois, quoi. On avait des conversations tout à fait normales. Bonjour, comment vas-tu? Oui, moi j'ai un petit garçon, donc je me suis acheté une maison. Là, il me dit, mais c'est pas bien. Un crédit en islam, c'est illégal. C'est illégal un enfant hors mariage. Tout ce que t'as fait dans ta vie, c'est illégal, en fait. Tu te rends compte, si tu restes comme ça, tu vas aller en enfer. Le paradis, c'est fini pour toi. Et à ce moment-là, il me culpabilise de plus en plus. Je me sens mal. Et je me dis, mais comment je fais pour rattraper mes fautes? Et là, tout doucement, il me parle d'état islamique. De faire la hijra en Terre Sainte, d'avoir tous mes péchés, si je vais là, tous mes péchés seront effacés. Et si je me sacrifie, j'aurai le paradis, automatiquement, en allant en Syrie. Le recruteur, moi, il me montrait des vidéos du genre, je voyais des écoles, je voyais même un manège, on voyait des hommes qui apportaient à manger au peuple syrien, une grande famille. Cette famille-là grandit parce qu'on veut faire le bien. On ne voyait pas de bombardement, on ne voyait pas de guerre. On voyait une ville tout à fait normale, ensoleillée, avec des immeubles même pas cassés ni rien du tout. En juin 2014, on ne m'avait pas montré moi, des vidéos de décapitation qu'on égorgeait. Je voyais qu'il y a la guerre, bien sûr, avec Bachar al-Assad et que les hommes de Daesh voulaient le tuer. Ça oui, je le savais qu'il y avait une guerre, entre guillemets. Mais moi, on m'avait dit « tu serais dans une ville sécurisée ». Et donc je me suis dit, en fait c'est la même chose, mais avec plus de religion et plus de justice. Pourquoi? Parce qu'il me disait, mais si quelqu'un est infidèle, on le punit. Et si on vole, on lui coupe la main.
La voix de Laura Passoni, l'une des revenantes de votre film Marion Stalins. Et elle nous parle de son histoire familiale. Elle revient notamment sur son enfance. Pourquoi avez-vous gardé cette dimension biographique au montage, alors que la question à laquelle vous souhaitez répondre, c'est comment a-t-elle été recrutée?
Je pense que pour comprendre ces trajectoires, il faut vraiment s'intéresser au temps long et comprendre que Laura, c'est une convertie. Elle est née dans une famille catholique, mais il se trouve qu'elle se sent en empathie avec des gens qui souffrent de discrimination, puisqu'elle-même, en tant qu'immigrée italienne, elle a vécu ça. Elle-même a été directement discriminée, mais elle est aussi en empathie avec ceux qu'elle les dominait, ceux qui sont autour d'elle. Et elle se convertit. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette conversion en soi n'est voilà, c'est juste une étape de vie qui ne pose aucun problème en soi. Mais il se trouve qu'à un moment donné de sa vie, elle est dans une grande douleur. Elle se sent abandonnée. Elle a l'impression d'un échec personnel. Elle a tout perdu, l'amour de sa vie. Elle a aussi pas fait d'études par amour. Elle a renoncé à tout. Et aussi, elle se retrouve dans un métier qu'elle n'a pas choisi, dont sa mère dit, et c'est intéressant, que c'est exactement ce qu'elle ne voulait pas qu'elle fasse, c'est-à-dire la même chose qu'elle. Et donc, elle a déçu ses parents. Et je pense que ça, c'est une dimension qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on arrive à une génération aujourd'hui où les jeunes sont souvent dans des impasses. Ils n'ont pas de travail ou ils ont un travail pas valorisant et ils peuvent avoir envie de sortir de cette médiocrité en choisissant un destin exceptionnel.
En l'occurrence, le métier de la maman, c'était donc femme de ménage, on dit technicienne de surface. Mais au fond, est-ce que expliquer, ce n'est pas déjà vouloir un peu excuser, pour reprendre une affirmation de l'ancien Premier ministre Manuel Valls?
Alors évidemment, moi ça me hérisse le poil quand j'entends ça. Alors à quoi bon la justice? Pourquoi on écoute les gens? Pourquoi on essaye de comprendre pourquoi ils ont commis ce qu'ils ont commis? C'est que justement la justice s'intéresse au parcours des gens. Sinon, on est hors des clous de la justice. On condamne les gens, a priori, sans essayer de comprendre.
C'est par Internet que Laura est recrutée, où elle se crée un profil Facebook Laura la convertiste, ainsi qu'elle est repérée par les recruteurs de Daesh. Et on comprend bien qu'elle est séduite donc par un discours qui lui fait du bien, un discours qui apporte des solutions à chacun de ses problèmes, comme par exemple l'infidélité des hommes. Qu'est-ce qui la rassure, Laura, dans la parole du recruteur?
Alors c'est à la fois cette idée de trouver un homme pieux qui serait enfin fidèle dans un monde où les gens se quittent facilement, on perd facilement son travail, tout est fluide, les amitiés sont des amitiés Facebook un peu fictives, notre monde paraît pas très solide. Les gens séduits par ça cherchent une solidité. Mais il y a aussi une dimension qui est importante à raconter, c'est qu'ils cherchent une utopie sociale. Il y a dans ce qui est proposé par Daesh, une dimension sociale qui est rarement racontée. racontée, c'est-à-dire que, évidemment, c'est fictif et ils s'en aperçoivent dès qu'ils arrivent sur place, hein, mais il leur a proposé un monde où on sera enfin dans une égalité réelle. Tout le monde va avoir un travail, ou en tous les cas, les femmes auront une fonction cruciale qui est celle d'être mère, mais aussi peut-être infirmière, etc. Elles auront quelque chose à faire de leur vie et aussi des salaires égaux, etc. Mais bon, il s'avère que sur place, évidemment, ces Syriens qu'on est venus sauver, on les traite comme des sous-hommes. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de juste. Mais enfin, c'est ce rêve de justice, c'est ça qui leur a été vendu. Il faut le comprendre parce qu'il y a cet appétit dans la jeunesse. Certains pensent trouver dans ce choix-là un exutoire à leur soif de justice et d'égalité. Et ils se fourvoient, bien évidemment. Mais cette soif, elle reste là. Et c'est ça dont il va falloir s'occuper très sérieusement.
Mon recruteur, il me disait aussi que Dieu m'avait élu parce que si il m'éprouvait autant, c'est parce qu'il m'aimait. Il me disait aussi de ne pas en parler parce que les personnes vont être jaloux et vont essayer de me dissuader de partir pour prendre ma place. Alors je me disais, quand je suis l'élu, Dieu m'aime, il veut absolument que je parte me sacrifier et aider ce peuple syrien. Et là, tout mon Facebook n'est plus religieux, mais radical. C'est-à-dire que je mets en photo de profil une femme en niqab parce que je disais, une femme peut, rien qu'avec ses yeux, séduire un homme. Je trouvais cet habit sexy. Et en couverture, des femmes avec des kalaches. Pour dire, nous les femmes, on est là pour s'affirmer aussi. Et nous-mêmes, on peut prendre une kalache, quoi. Moi, le recruteur m'avait dit qu'il recherchait une femme qui était prête à aller avec lui en Syrie pour combattre, aller jusqu'au front et mourir à ses côtés. Donc, il m'avait demandé si je voulais être son épouse et si j'étais capable d'arriver jusque-là et d'accepter aussi les trois autres épouses qu'il voulait. Et là, je me remets en question, je me dis, ah non, moi, j'ai mon petit garçon, je ne veux pas mourir, je ne veux pas le laisser seul. Il me dit, mais t'inquiète pas, ton petit garçon sera repris par des hommes de Daesh. Il dit, ah non, moi, j'aimais trop mon petit garçon, donc là, à ce moment-là, je fais marche arrière. Je me dis, ah non, moi, ce n'est pas ce que je veux, on n'est pas compatibles. Donc à ce moment-là, il me dit, c'est pas grave, nous deux, on n'est peut-être pas compatibles, mais tu trouveras un autre homme qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Mais moi, je ne voulais pas partir toute seule parce que je n'osais pas partir avec mon fils. Il y a des femmes qui partent toutes seules, mais moi, c'était hors de question. Donc, je voulais vraiment un homme pour partir avec moi. C'est de là que Oussama m'a contactée sur Facebook. Et on a appris à se connaître, lui et moi. Et on s'est vus que trois fois, parce qu'après la troisième fois seulement, on s'est mariés. La première fois, c'était juste une rencontre pour voir si on se plaisait. On a resté même pas une heure ensemble. La deuxième fois, c'était pour préparer le mariage. Et la troisième fois, c'était pour se marier. Donc, je me suis dit, ben oui, je vais me marier parce que je me suis dit, s'il me marie, c'est qu'il craint Dieu, il me respecte et il ne veut pas jouer avec moi. J'étais décidée, je voulais vraiment partir, j'en pouvais plus d'être ici. Je partais pour toujours en fait, j'avais tout laissé pour vivre réellement en Syrie pour toute ma vie.
L'endoctrinement, le basculement et le départ pour la Syrie au pays de Daesh raconté par Laura, à visage découvert dans votre film Revenante, Marion Stalins. Ce qui est impressionnant, c'est la force de sa croyance à toutes les promesses qui lui sont faites. Elle accepte de se marier au bout de trois fois avec un homme qu'elle n'a jamais vu. Qu'est-ce qui la rend aveugle à ce point ?
Je pense qu'on a affaire à une emprise terrible qui manipule le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'à la fois, on dit aux gens qu'ils sont complices d'un système injuste s'ils restent, qu'ils sont coupables pour des raisons X et Y, parce qu'ils savent bien trouver le talon d'Achille de chacun. Et en même temps, on leur souffle le chaud en leur disant qu'ils sont des élus, qu'ils font partie d'un groupe choisi par Dieu. On leur dit que leurs parents sont mécréants, donc on leur fait peur, etc. Et en même temps, qu'ils pourront les sauver, puisque s'ils vont là-bas, ils pourront les amener, puis pourront les faire venir au paradis. Alors c'est sans arrêt le chaud et le froid, à peu près comme des pervers narcissiques qui savent justement trouver l'endroit fragile de la personne. Et ils s'adaptent à chacun, ils n'ont pas un discours préfabriqué, ils prennent un temps pour évaluer la personne et derrière, ils font leur travail de sape à plusieurs et ils accompagnent les gens, mais seconde après seconde dans leur vie, en leur envoyant des messages, en les voyant, en les revoyant, en les re-revoyant jusqu'à ce qu'ils soient complètement pris dans ce système de pensée qui leur enlève leur sens commun.
Concernant le djihadisme féminin, combien de femmes sont prêtes à rejoindre la Syrie et quelles sont leurs motivations? Je vous propose d'écouter l'éclairage de Myriam Benrad, docteur en sciences politiques et auteur de Djihad, des origines religieuses à l'idéologie.
Concernant le djihadisme féminin, c'est centaines de femmes qui sont parties. On a tout de même 20% des départs vers la Syrie en 2015 qui sont des départs de femmes. Et en 2017, on a encore 165 Françaises, d'après les statistiques du début de l'année 2017, qui sont toujours dans les rangs de l'État islamique sur les terres du califat, entre guillemets. Donc tout de même, ce sont des chiffres importants quand on sait, une fois encore, que les femmes étaient très peu représentées et avaient un rôle très secondaire. Alors maintenant, au niveau des motivations, je pense que ces motivations, on commence à mieux les comprendre précisément parce que on est face à ces revenantes qui, pour beaucoup, acceptent de témoigner. Donc, les premières motivations me semblent être d'ordre personnel, tenant à la situation familiale, sentimentale de ces femmes. Généralement, on observe dans les parcours militants djihadistes des femmes des liens donc avec des hommes qui eux-mêmes étaient radicalisés et passés au djihad. Donc des liens de sang, de parenté, des liens d'amitié, des liens amoureux et qui les ont poussés à rejoindre la Syrie et l'Irak. On a dans un second temps, je dirais, des motivations plus idéologiques donc, qui ont fait que certaines femmes ont cru dans le projet pan-islamiste qui était proposé par l'État islamique et qui se sont donc rendues en Irak et en Syrie parce qu'elles étaient convaincues de leur engagement et de sa pertinence, des motifs qui les avaient poussés à rejoindre le groupe. On a des motifs plus, je dirais, moraux, en tout cas à leurs yeux. Certaines étaient convaincues de se rendre vers une organisation à but humanitaire. Ça, c'est important parce que ça revient beaucoup dans les témoignages et pas seulement des témoignages des femmes françaises. Donc, une diversité de motivations qui explique ces départs et qui est à mettre en regard avec les vies antérieures, les parcours biographiques de ces femmes qui sont eux-mêmes très différents.
Autant de parcours singuliers, d'itinéraires biographiques. Marion Stalins, dont nous avons l'écho, bien entendu, dans Revenante, votre film documentaire. Mais bien sûr, lors de 2 ans d'enquête, vous avez rencontré beaucoup plus de femmes que celles que l'on découvre grâce à votre film. Est-ce que, lors de votre enquête, vous avez également rencontré des femmes qui auraient été recrutées par d'autres femmes ?
Oui, bien sûr. Les femmes, de toute façon, comme les hommes, une fois qu'ils sont recrutés et qu'ils sont convaincus du bien fondé de ce projet, deviennent des recruteurs, des recruteuses. Et d'autant plus qu'une fois sur place, elles sont pas invitées à combattre. Dans l'idéologie djihadiste, comme dans l'idéologie salafiste, les hommes et les femmes sont séparés. Il n'y a pas de mixité. Un champ de bataille, c'est un endroit de rencontre hein, où on se côtoie très très proche. Donc les femmes ne sont pas appelées à combattre. Leur djihad, c'est le djihad qu'on appelle sans combattre, qui consiste à faire des enfants, donc à fournir les soldats hein, du califat et les mères, les futures mères du califat. Mais aussi, certaines sont frustrées d'en rester là. Alors il y en a certaines qui peuvent être infirmières, etc. Mais la plupart sont confinées à la sphère domestique. Et c'est dans la sphère domestique qu'elles ont envie tout d'un coup de servir encore plus à quelque chose et donc de recruter d'autres ou certaines même participent à la propagande. Il y a des articles écrits par des femmes dans les journaux publiés par Daesh. Il y en a certaines même, alors là c'est un groupe restreint mais qui néanmoins existe, hein, c'est la brigade des femmes. La fonction de cette brigade est aussi de punir et voire parfois de torturer. Donc on peut pas du tout dire que les femmes sont par essence des doigts de la violence.
Et la diversité de ces parcours biographiques, c'est justement ce que l'on découvre dans le film documentaire de Marion Stalins, Revenante. Un film à voir sur France 2 en replay jusqu'à mardi prochain. Un film dont on vous propose d'écouter les témoignages. Et c'est à suivre dans La Marche du Monde sur RFI.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
C'est la suite de La Marche du Monde sur RFI. Nous sommes à l'écoute du film de Marion Stalins, Revenante, consacré aux femmes qui sont parties ou bien qui ont failli partir pour Raqqa, rejoindre l'organisation État islamique en Syrie.
aujourd'hui. Je suis une femme libre et je suis pour la laïcité, je suis pour des valeurs de respect, de tolérance, et je pense que c'est ça le vrai islam. La religion aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'intime, de pudique pour moi, quelque chose de beaucoup plus profond.
Elle s'appelle Enda. Elle est l'une des nombreuses voix du documentaire de Marion Stalens, où nous découvrons le parcours de vie de plusieurs candidates réelles ou potentielles au djihad. Des femmes dont les biographies nous éclairent sur leur personnalité, leurs difficultés ou leurs blessures. Ce qui nous permet de mieux appréhender la complexité d'un processus de radicalisation et de déradicalisation. L'une d'entre elles prononce d'ailleurs cette phrase incroyable dans votre film Marion Stalens. « Daesh m'a déradicalisé ». Comment l'entendez-vous ?
Ah, ça c'est Laura qui dit ça. C'est qu'elle a été confrontée à des injustices effroyables, au fait que par exemple une femme n'a pas le droit de se promener dehors sans un mahram, c'est-à-dire quelqu'un qui la protège, un homme de sa famille directe, à tel point que quand il y a un bombardement sur un immeuble, ben la femme reste coincée à l'intérieur et puis voilà, c'est son destin, elle doit mourir là, c'est Dieu qui l'a voulu et tant pis. Par exemple, elle devait avoir une césarienne parce qu'elle était enceinte et que l'idée ce soit que de toute façon souffrir c'est plutôt voilà, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est pareil, et donc pas d'anesthésie, on fait ça à vif. Enfin, ce genre de choses a fait qu'elle a eu un sentiment d'être tombée dans la gueule du loup, plus ce dont elle a été témoin dans les rues, des gens qu'on égorge et qu'on met sur la place publique, ou des histoires de femmes esclaves, enfin bon, toute la litanie des horreurs de Daesh qu'on connaît déjà, mais elle les a vues de près. Et je pense que c'est évident que, à moins d'être complètement radicalisée, ce que certaines femmes sont encore certainement, mais on a une part d'humanité qui se réveille face à ça. Voilà. Il y a aussi d'autres choses dont elle a été témoin qui sont assez terribles. C'est au sein des familles, la façon dont la violence passe les murs des maisons et dont certaines femmes, par exemple, éduquent leurs enfants en étant ultra violentes avec eux, parce que, pour les endurcir, parce qu'il faut être dur, un bon futur petit soldat de cette armée. Je pense que aussi, pareil, une mère qui a de l'empathie pour son enfant, ben, ça réveille quelque chose et ça rend insupportable de rester là. Donc oui, effectivement, c'est réel. Auxquelles elle a été confrontée, en fait, qu'elle s'est déradicalisée toute seule, face au réel.
Marion Stalens, au fil de votre enquête, vous vous êtes rendu compte que vous deviez aussi donner à entendre la parole d'une ancienne salafiste, qui elle aussi apparaît à visage découvert. Et pourtant, Enda n'a jamais été candidate au départ pour la Syrie. Pourquoi son témoignage vous a-t-il semblé nécessaire ?
Alors, ce que je trouvais intéressant dans la rencontre avec cette femme, d'une part, et c'est pour ça qu'elle est dans le film, c'est qu'il y a eu un moment où elle a été tentée par le djihad. Hein. Elle a quand même un lien. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut faire bien la différence entre salafisme et djihadisme. Mais les deux idéologies revendiquent une fidélité au parcours des salafs, c'est-à-dire des pieux ancêtres, des personnes qui ont suivi le prophète au premier temps de l'islam. Les salafistes se revendiquent la plupart quiétistes, c'est-à-dire non-violents, et lutte contre le djihadisme. En revanche, les djihadistes, eux, disent qu'ils sont les vrais salafistes. Donc c'est assez compliqué, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que certaines personnes démarrent dans le salafisme et basculent dans le djihadisme. C'est pas une majorité, mais ça arrive. Mais la raison pour laquelle je me suis intéressée à cette femme, c'est aussi parce que, grâce à elle, je voulais comprendre quelle est cette conception des rapports hommes-femmes et aussi du rapport entre les gens convaincus de cette idéologie et le reste de la société. Comment comprendre, comment rentrer dans l'intimité de cette pensée avec elle? J'ai eu vraiment l'impression que j'accédais à cette folie, en fait, qui par exemple, considère les femmes comme des suppôts du diable, potentiellement, quoi.
Nous écoutons votre rencontre avec Enda.
Moi, je me sentais supérieure, quoi, aux autres femmes qui portent le voile aussi. Elles sont pas assez pures. Elles ont pas encore assez de foi. J'étais fière parce que je me disais, on est la communauté élue, on est le groupe sauvé. C'est dur pour nous, mais on est là, on résiste. Toutes les femmes qui ne portent pas le voile sont des prostituées ambulantes qui se cantonnent au rôle d'objet de consommation. Les hommes salafistes, leur préférence, ce sont vraiment les femmes vierges. Si ce sont des Françaises converties, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser les mécréants rentrer chez nous. Ces gens vont aller en enfer et ils veulent emmener un maximum de bons musulmans en enfer avec eux, parce qu'ils sont le diable. Et la femme est deux fois plus diablesse. C'est pour ça qu'un homme ne doit pas regarder la femme plus de deux fois, parce qu'on dit que s'il lève une troisième fois le regard sur la femme, c'est le diable. La femme se transforme en diable. Quand un homme se présente et vous dit, dans l'islam, la femme c'est une princesse, c'est une perle qu'on doit protéger dans sa coquille, il se présente comme un sauveur, comme l'homme qui va prendre, qui va prendre soin de la femme, qui va la protéger de la méchante société, du monde extérieur qui est dangereux, des hommes qui veulent la violer, qui sont tous des pervers sexuels. Et il est venu à l'improviste chez ma mère et il a dit à ma mère, je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas épousé votre fille. Et je me suis retrouvée mariée du jour au lendemain. Je suis tombée très vite enceinte. J'ai eu 3 enfants avec cet homme. Et ça a duré environ 9 ans et demi. D'enfermement, de soumission, pas le droit d'écouter de la musique, éviter la télé parce qu'on y voit les mécréants, on sortait pas de cinéma. Pas le droit de sortir toute seule, et puis surtout passer la majeure partie de son temps à s'occuper de la maison, de la cuisine, des tâches ménagères et à étudier le salafisme. Donc moi, mon mari me faisait des contrôles surprises. Il me disait, tu vas avoir un contrôle, je vais te noter. Donc il fallait que j'apprenne. J'avais l'impression qu'il avait une grande science, qu'il connaissait plein de choses, qu'il lisait les livres en arabe. Enfin, je l'admirais, quoi. Je me disais, mais oui, c'est lui qui est en train de me guider vers le paradis.
Dans le film de Marion Stalins, nous découvrons que Enda, musulmane et ancienne salafiste, prend conscience de s'être faite abuser par son mari, ce qui lui permet de sortir du carcan idéologique dans lequel elle était entrée. Enda explique quelle vision des femmes est véhiculée par le salafisme tel que son mari lui a enseigné.
On dit aux hommes, si votre femme est tordue, c'est normal, c'est naturel. Parce que la femme a été créée de la côte d'Adam, et la côte d'Adam est tordue, donc que dès la base, la femme, elle est tordue. On dit que la vie ici-bas, c'est la prison du croyant. On doit faire des efforts. Tout le temps, la chaleur de l'enfer sera 1000 fois plus forte que la chaleur du soleil en été avec un voile. C'est décrit dans les livres. On décrit l'enfer, on décrit les affres de la tombe. Ça fait peur. On nous dit, vous allez être brûlé dans votre tombe, vous allez être battu avec des barres de fer. On va vous entendre hurler, vous allez aller en enfer pour l'éternité. Et moi, j'en faisais des cauchemars. J'étais malheureuse, j'étais maltraitée, j'étais insultée, j'étais rabaissée, j'étais humiliée. Et je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, tout ce qu'il voulait, c'était ses intérêts. Il se servait de la religion pour avoir une femme de service. C'est aussi simple que ça.
La colère d'une femme musulmane, une ancienne salafiste, filmée par Marion Stalins, dans son documentaire intitulé « Revenante ». Alors, elle aussi, Enda, elle en est revenue, non pas de la religion, mais de ce courant radical appelé le salafisme. Et dans votre film, c'est une fois de plus à son parcours que vous vous êtes attachée. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Enda pour qu'elle puisse finir par penser qu'elle n'était pas une bonne musulmane ?
Enda a la particularité d'avoir un père qui a été harki et elle se faisait traiter de fille de harki par sa mère parce que sa mère avait été mariée avec cet homme par un mariage forcé et elle s'est retrouvée entre ses deux parents objet d'une guerre effroyable et issue d'une identité qu'elle n'arrivait pas bien à comprendre. Harki, elle ne savait pas ce que c'était. Et il y a eu dans beaucoup, beaucoup de familles une absence de transmission mémorielle.
Où... Cela veut dire qu'elle ne savait pas que les harkis, c'était les supplétifs de l'armée française en Algérie. Et dans la mémoire collective, encore aujourd'hui, malheureusement, ils sont considérés comme des traîtres.
Voilà, c'est ça. Elle était la fille d'un traître, entre guillemets, et elle s'est retrouvée à vouloir revendiquer l'identité musulmane. Elle dit plus encore qu'il n'aurait fallu pour se racheter d'une certaine façon vis-à-vis de l'image qu'elle avait eue de son père. C'est souvent le cas. Dans les parcours de djihadistes, il y a eu très souvent des enfants issus de cette histoire très sombre, de cette histoire des harkis qui ont été trahis aussi par la France, qui sont considérés comme des traîtres d'un côté et en même temps qui ont été considérés comme des moins que rien. Il y a aussi dans son parcours une chose très importante et qui est quelque chose d'assez récurrent, qu'on retrouve très régulièrement dans ces parcours de femmes, c'est des abus sexuels. Que ce soit d'ailleurs des femmes issues de familles tout à fait lambda, françaises d'origine, etc. Il y a souvent ces abus, et s'il y a une chose à faire pour faire de la prévention, c'est s'occuper de ce problème des jeunes qui ont été victimes d'abus sexuels.
Je vous propose, Marion Stalins et chers auditeurs, de retrouver notre spécialiste du monde arabe, Myriam Benrad. Je lui ai demandé si le salafisme était l'antichambre du djihadisme.
C'est la question que se posent de nombreux chercheurs, de nombreux spécialistes depuis notamment les attentats de Charlie Hebdo en 2015. Est-ce que le salafisme est l'antichambre du djihadisme ? Alors, de ce point de vue, on a une constellation d'avis très divergents. Certains considèrent qu'il n'y a pas corrélation lorsque le djihadisme n'est pas le salafisme, ce dernier étant un mouvement très hétérogène, notamment quiétiste, donc qui rejette la violence, qui n'inscrit pas sa généalogie dans celle du djihadisme, et que bien souvent le salafisme équivaut davantage à un mode de vie puritain, tourné vers l'idée de renouer avec les origines de l'islam, mais qui ne prédestine pas à la violence nécessairement.
Le salafisme rejette la violence.
Alors, on ne peut pas dire que le salafisme rejette la violence parce qu'il n'y a pas un salafisme, il y a déjà un problème de définition de qu'est-ce que le salafisme. On a différents courants au sein de ce qu'on appelle le salafisme. On a un courant effectivement quiétiste, hein, qui est donc apolitique et tourné davantage vers les mœurs, la morale, l'éducation, et qui rejette assez violemment l'usage de la violence et en l'occurrence le djihad armé. On a une tendance maintenant, elle, oui, plus tournée vers le combat, vers la lutte, qui est le salafisme djihadisme, et qui là, pour le coup, associe directement la vision donc, puritaine, ultra-rigoriste, qui est portée par le salafisme, au djihadisme. Mais c'est une mouvance qui, au sein du salafisme, est relativement minoritaire.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous nous interrogeons sur les motivations des femmes parties et revenues de Raqqa. Et nous avons choisi pour cela de vous faire découvrir le film de la réalisatrice Marion Stalins, intitulé « Revenante ». De Raqqa, Marie s'en est enfuie et pourtant c'est de son plein gré qu'elle est partie rejoindre le territoire de l'État islamique. Elle aussi a trouvé un ami sur Internet, en réalité un recruteur qui savait l'écouter et lui donner espoir.
On ne peut pas adhérer au discours de Daesh juste par hasard. Il y a une dimension d'injustice sociale, de colère politique. Il faut voir en face certains problèmes de notre société qui peuvent pousser certaines personnes sur le bas-côté. Certains d'entre eux tombent entre les mains de Daesh.
Pendant plusieurs mois, Marie continue ses conversations secrètes avec son ami djihadiste. Elle s'enfonce dans l'isolement. Au travail, elle supporte de moins en moins les situations d'injustice. Et dans son couple, le malaise s'installe. Seuls les coups de fil de son amie l'apaisent.
J'étais dans une espèce de quête spirituelle. Il y avait comme une espèce d'excitation à force d'entendre que le fait de m'être convertie, j'étais quelqu'un de particulier, que je méritais mieux. Et la personne avec qui je parlais, pour moi, c'était pas un assassin. C'était pas la personne qui pose des bombes et qui tue parce qu'on ne pense pas comme elle. Quand il y a eu sa phrase de « viens voir comment ça se passe et dans tous les cas, on pourra te faire repartir », cette parole a résonné plusieurs jours dans ma tête. Enfin, j'y ai cru sincèrement. Je savais qu'en partant de là, je trahissais, je mentais à mes proches. Donc à un moment, j'ai peut-être dû mettre en veille une partie de mon cœur, une partie de ma tête, pour supporter cette espèce de secret-là, morbide. Jusqu'au dernier moment, même en prenant mon billet, je me disais « je vais annuler ». Je me laissais tirer vers cette espèce de précipice et je me sentais happée.
Dès son arrivée à Raqqa, Marie voit ses illusions s'envoler, elle aussi. Ce qui l'attend est bien différent de cette fraternisation qu'elle espérait.
En arrivant dans cet appartement, j'avais l'impression d'être complètement usurpatrice. Ça appartenait à des Syriens. Très vite, oui, je me suis posé la question de ce que je faisais là. J'avais honte. La personne qui m'avait fait venir était partie combattre, et non pas pour aider qui que ce soit. Donc ça, je l'ai vu et compris sur place. Ces combattants de Daesh qui étaient soi-disant venus faire la guerre à Bachar al-Assad, les voir se pavaner armés en permanence, et les Syriens ne l'étaient pas. Moi, ça m'a posé question. Donc entendre des réponses comme « les Syriens sont sales, bêtes, dangereux, des traîtres », ça m'a fait froid dans le dos. C'était « on vient les poches pleines de dollars pour vous apprendre à être des bons musulmans ». Les djihadistes, j'étais surprise de voir leur comportement dans les magasins, les gens qui ne font pas la queue. Donc les Syriens pauvres devaient faire des queues pas possibles pour chercher la nourriture qui était distribuée par les gens de Daesh. La population s'accrochait à, entre guillemets, l'aide du diable, parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Dans les rues, j'ai vu des hommes courir pour rentrer chez eux ou se mettre à l'abri, à l'appel de la prière, parce qu'apparemment c'était puni en fait de ne pas faire la prière. On est vite soupçonné de mécréance ou d'espionnage. Les gens étaient payés pour des délations. Donc il y a des Syriens qui accusaient leurs voisins qui ne priaient pas. Et j'en suis persuadée que ces gens-là n'adhèrent pas du tout aux idées de Daesh. C'est l'appel du ventre, quoi. C'est la misère qui conduit à ça. Ça m'a renvoyé logiquement à ce qu'on a vécu pendant les colonisations. Et ça a été un gros choc. Parce que j'ai eu des grands-parents qui ont vécu cette période de colonisation. Ils en gardaient un goût assez amer, une espèce de peur du colon. Ça fait partie des choses pour lesquelles je m'en suis voulu, mais oui, au point de me haïr, en me disant « mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas syrienne, donc tu es forcément de l'autre côté, et forcément du mauvais côté. »
La voix de Marie. Dans la marche du monde, Marie qui a tant rêvé de rejoindre Raqqa, qui va de désillusion en désillusion. J'ai envie de vous demander à la fois qu'est-ce qui a été le plus choquant pour elle, mais d'abord j'aimerais savoir comment s'est passée cette rencontre. On sent que Marie est à vif.
Oui, ça a été très compliqué d'accéder à sa parole parce que elle se méfiait beaucoup des médias. Elle avait peur pour elle-même, pour sa famille. Je dois vraiment avouer qu'au début de ce travail, j'avais peur, moi, de qui j'allais rencontrer. Je me disais, mais oh, je suis folle, là. Je me disais, où rencontrer ces personnes? Où est-ce que je pourrais être protégée? Dans un café, à la production? Où est-ce que je vais trouver un... Et finalement, quand je les ai rencontrées pour de bon, je me suis rendu compte que c'était elles qui avaient peur plus que moi. Parce qu'en prenant leur courage à deux mains pour oser raconter leur histoire, elles se mettent en danger. Elles se mettent en danger non seulement elles, mais leur famille. Et ça a achevé de me convaincre de l'importance de les respecter cette parole et respecter leur désir d'anonymat. Pour Marie, vraiment, elle témoigne de dos et sa voix a été transformée. Et j'ai trouvé ça la moindre des choses.
Dans son parcours à elle, qu'est-ce qui a fait électrochoc? C'est-à-dire à quel moment, une fois Raqqa, elle s'est rendue compte que ce n'était pas de cela dont elle avait rêvé et elle décide de partir?
Je crois que Marie, elle a compris très très vite. Tout de suite, dès l'arrivée du fait d'avoir été par exemple installée dans un appartement qui avait été spolié à des Syriens, tout de suite elle s'est dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Elle-même étant issue d'une famille qui a vécu la colonisation, mais du côté des colonisés, elle s'est dit « mais je suis colon, moi. Je suis en train de... » Et puis aussi d'observer dans la rue, de voir la façon dont les djihadistes se comportaient, qu'ils avaient des privilèges, qu'ils ne faisaient pas la queue dans les magasins, qu'ils avaient les poches bourrées de dollars, tandis que les Syriens étaient obligés de faire la queue pour obtenir maigrement leur pitance qui leur a été distribuée par les djihadistes.
Je vous propose d'écouter une dernière fois Marie. Soupçonnée de vouloir s'enfuir, elle se retrouve dans une maison de femmes, une madafa.
Donc j'entre dans cette madafa sans dire un mot. Je fais bonne figure pour ne pas éveiller de soupçons et j'observe. Il y avait énormément de femmes, pas mal d'enfants. C'était une sorte de prison où on ne sort pas, sauf mariées, sauf mortes. Il n'y avait pas de communion entre elles toutes, malgré ce qu'elles veulent faire croire, le côté sœur de religion. On entend des échanges entre elles très crus sur la sexualité, sur les hommes. Elles en parlent en permanence. Une femme divorcée a le droit de se remarier. Une femme qui perd son mari au combat a le droit de se remarier. Donc les femmes finissent par se retrouver avec beaucoup de partenaires. Cette obsession du mariage cache bien évidemment le besoin sexuel que peuvent avoir ces hommes et ces femmes. Mais il y a énormément de femmes qui ont été mariées de force, parce qu'elles tombaient sur des hommes, même parfois assez vieux. On ne demandait pas leur avis, ou alors on faisait seulement demander leur avis, et puis au bout de peut-être de deux ou trois refus, on les forçait à se marier. Je me disais, si l'occasion se présente, je pars. Donc, quelques jours après mon arrivée, je profite d'un moment de chaos pour me faufiler de l'autre côté du trottoir. J'ai marché, en essayant de m'éloigner sans me retourner. J'ai erré dans les rues de Raqqa. Je savais que j'étais signalée par les gens de la Madafa, auprès de la police évidemment, de Daesh. Et je suis allée demander de l'aide à un couple de Syriens que je voyais souvent en sortant de mon immeuble. En arrivant, je pleurais. Ils avaient peur, mais en même temps, ils m'ont ouvert la porte parce qu'ils avaient peur pour moi. J'ai échangé avec cette famille de résistants syriens qui a risqué sa vie pour me protéger. Ils faisaient partie de ceux qui se battent contre deux camps, Daesh et le gouvernement qui les opprime, et le gouvernement de Bachar al-Assad. Je leur demande de me prêter un téléphone pour appeler ma famille qui était aux aguets, qui me répond tout de suite. Grâce à mes proches et des personnes qui se sont démenées pour nous aider, j'ai été mise en contact avec une personne de l'armée syrienne libre. Et après ça, on a fait ce long chemin qui m'a conduit vers la liberté. Je me tenais assise en Amazone, j'agrippais mon sauveteur. On a passé plusieurs checkpoints sans trop de difficultés. Daesh a des convictions soi-disant, mais avec un peu de dollars et quelques euros, ces convictions peuvent s'assouplir. En arrivant à la frontière, il a fallu attendre pas mal de temps avant de traverser, puisque les gardes turcs étaient là. Et cette personne m'a sauvée. Il a pris ce risque pour sa vie, pour me sortir de là.
Quelque temps après notre rencontre, Marie a appris que ce résistant syrien a trouvé la mort, assassiné par Daesh.
Raqqa se révèle un enfer alors que leur recruteur leur avait promis le paradis. C'est ce dont témoignent les femmes à qui vous donnez la parole, Marion Stalens, qui pour certaines ont bien évidemment des comptes à rendre à la justice française ou belge.
J'aimerais savoir. Toutes, elles ont toutes des comptes.
J'aimerais savoir quel est leur rapport à la justice, justement. Comment elles le vivent, ça?
Alors, je pense qu'elles. C'est la raison pour laquelle ces femmes sont dans le film, c'est parce qu'elles reconnaissent. Elles reconnaissent leur énorme erreur et qu'elles sont d'accord de rendre des comptes à la justice. Elles sont toutes les deux condamnées. Hein. Les deux femmes qui sont dans le film ont été condamnées. L'une a fait de la prison, l'autre non, parce qu'elle était très enceinte et que la justice a estimé qu'elle ne présentait pas de danger, hein, après avoir été évidemment interrogée par les services secrets, etc. Enfin, ces femmes sont d'abord, de toute façon, recueillies par la police et ont des comptes à rendre, bien entendu. L'une donc a pu récupérer ses enfants au bout de 4 mois et commencer à reconstruire sa vie. L'autre a fait de la prison et elle dit que en prison elle a pu être avoir enfin le temps de réfléchir à ce qu'elle avait vécu comme expérience et que ce silence, cette temps de réflexion a été utile, surtout qu'elle a rencontré quelqu'un qui l'a aidé à réfléchir sur son parcours, à revenir sur son enfance. Justement, elle est orpheline, elle a eu des épisodes dépressifs, etc. Enfin, de revenir sur tout ce qui a fait qu'elle éprouver le besoin de se raccrocher à cette espèce d'utopie mortifère au final. La justice, elles en ont besoin, elles éprouvent le besoin d'être condamnées et de payer leur dû pour l'erreur qu'elles ont faite. Elles ont en revanche réussi l'une et l'autre à reconstruire leur vie et c'est aussi un message d'espoir parce qu'aujourd'hui, grâce au fait qu'elles soient sorties, elles peuvent transmettre leurs expériences. Par exemple, Laura va dans les écoles un peu partout en Belgique raconter aux enfants, aux jeunes, comment elle a été embrigadée et comment elle a été témoin d'horreur, comment elle a réussi à revenir et surtout elle fait un énorme travail de prévention qui est indispensable. Ces personnes sont le meilleur contrepoison qu'on puisse imaginer contre Daesh.
Merci. Revenante est à découvrir sur France 2 en replay jusqu'à mardi prochain et sur YouTube, à consommer sans modération et à réécouter dans la marche du monde sur RFI.
On peut détruire le territoire physique de Daesh, mais le plus difficile sera de reconquérir le territoire des esprits. En tournant ce film, j'ai fait le pari d'aller à la rencontre de femmes qui ont connu la plongée dans la radicalisation et qui en sont sorties. J'ai l'espoir qu'avec elles, ce monde obscur livrera quelques-uns de ses secrets. Ces femmes s'expriment en prenant des risques pour leur vie.
Il m'a paru évident de préserver leur anonymat chaque fois qu'elles me le demandaient. Certaines d'entre elles ont malgré tout décidé de témoigner à visage découvert.
Revenante, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et mise en onde par Elliot Bourrel avec la complicité de Maxime Thuriot. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook, exprimez-vous, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.